Donc, Raphaël, après des années de psychodrame législatif, commercial, politique, ben, on a peut-être à portée de main là, une nouvelle entente, ce d'accord commercial Canada, États-Unis et Mexique.
Il y en a peut-être en nous entendant qui vont dire « on en avait une, on l'avait annoncé il y a un an, il y a plus d'un an ». Mais évidemment, ça a pris le décor lorsque les démocrates ont pris le contrôle de la Chambre des représentants au début de 2019 et ont exigé qu'on rouvre l'entente. Et là, ça a été fait, ça a été rouvert et on serait littéralement à quelques heures d'une annonce formelle. Ça pourrait venir en fait dès aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'il y a eu autant d'incertitudes, autant justement de psychodrames autour de la rouverture de l'entente? C'est parce que ça impliquait beaucoup de joueurs qui avaient des intérêts très différents. Donc, les démocrates à la Chambre demandaient des changements, mais c'était des changements qu'à la fois la Maison-Blanche de Donald Trump devait accepter, que les républicains au Sénat, qui sont majoritaires, devait accepter, et que le Canada et le Mexique, les deux autres pays membres de cet accord-là, devaient également accepter. Dans le cas du Mexique, il faut comprendre que l'accord qui avait été signé l'an passé avait déjà été ratifié par le Congrès mexicain. Le Mexique avait fait 100% de son chemin. Le Canada était rendu pas loin d'avoir fait 100% également de son côté, était en processus actif de ratification. Ça bloquait seulement aux États-Unis. Et là, les changements demandés auraient été essentiellement donnés. Tout le monde serait sur la même longueur d'onde. Mais je n'ai pas présentement, personne n'a publiquement la nature des changements ou des concessions qui ont été obtenues. Ce qu'on sait, c'est que depuis des mois, les démocrates demandaient des changements en ce qui a trait aux normes du travail du côté du Mexique. Évidemment, on veut lutter de façon plus musclée contre le cheap labor et demandaient aussi des changements au niveau des protections légales qui seraient offertes dans le nouvel accord, notamment pour les compagnies pharmaceutiques. Donc, qu'est-ce qui a été obtenu exactement? Il faudra voir, mais c'est quand même une grosse nouvelle. Et je t'explique aussi le pourquoi. Pourquoi est-ce que ça débloque maintenant après des mois et des mois et des mois de blocage? Simplement parce que politiquement, tu as un groupe d'élus démocrates à la Chambre qui représente des circonscriptions où c'est plus compétitif, où Donald Trump est peut-être plus populaire et où eux ressentaient beaucoup de pression. Et c'était une pression qui était rendue en fait invivable de pouvoir montrer à leurs électeurs qu'ils ne sont pas juste à Washington pour essayer de destituer le président, montrer qu'ils sont capables de légiférer, de s'entendre avec les membres de l'autre parti, passer des grosses choses. Ça serait un cas d'un gros accomplissement législatif pour tout le monde, les deux partis au Congrès et évidemment le président.
Parfait. OK. Le département de la justice aux États-Unis là, qui a dévoilé un rapport attendu sur les origines de l'enquête, la fameuse enquête Mueller.
C'est quoi, Pat, la fameuse enquête Mueller? Ben, rappelle-nous.
L'enquête Mueller, c'est l'ancien là, chef du FBI qui a été nommé procureur spécial. Oui. Il a plongé dans tous les liens entre la campagne de Donald Trump en 2016 et des intérêts étrangers, nommément la Russie.
Exactement. Et qu'est-ce que Donald
Trump... Pour voir s'il y a des lois qui avaient été brisées.
Et voilà. Et s'il y avait eu de la collusion entre l'équipe de Donald Trump et la Russie. Et qu'est-ce que Donald Trump a toujours dit au sujet de l'enquête Mueller? Que c'était un canular, que c'était une chasse aux sorcières et de façon plus précise que c'était une chasse aux sorcières qui avait été entamée par des motivations, pour des motivations politiques. Essentiellement, qui avait été victime d'un complot. Et donc, il y a eu enquête de la part de l'inspecteur du département de la justice, l'inspecteur général du département de la justice, rapport de plus de 400 pages qui vient d'être dévoilé cet après-midi, dans lequel ce qu'on dit essentiellement, c'est que non, il n'y a pas eu de complot, il n'y a pas eu de chasse aux sorcières, il n'y a pas eu de motivation politique. Par contre, ce qu'il y a eu, c'est plusieurs erreurs sérieuses commises par le FBI au niveau des origines de l'enquête. C'est-à-dire qu'on aurait obtenu des mandats de surveillance de certains des membres de l'équipe de Donald Trump. En 2016, on l'aurait fait de façon légale, de façon apolitique, mais de façon également douteuse. Donc, je te donne un extrait. Évidemment, 430 pages, je n'ai pas eu le temps de lire le total en l'espace de une ou deux heures, mais je te donne un exemple de flou. On dit que le FBI a respecté les standards établis. Dans le même souffle, on dit également qu'il s'agissait de faibles standards. Donc, on a mis la barre basse, il y en a qui diraient trop basse, mais on l'a quand même respecté. Donc, d'un côté, ce que Donald Trump dit, évidemment, c'est que ce rapport-là valide ce qu'il avance. Dans les faits, c'est pas mal plus nuancé que ça. Ce que le rapport dit, c'est que non, il n'y a pas eu de complot. T'sais.
Mais moi, ce que je retiens de toute cette saga-là, Raphaël, c'est que Mueller lui-même a dit, écoutez, si Donald Trump n'était pas le président des États-Unis et que son département de la justice, son ministère de la justice n'avait pas statué qu'un président en exercice ne peut pas être accusé au criminel, probablement qu'il aurait été accusé.
C'était implicite dans le rapport Mueller. Ouais. Effectivement, là-dessus aussi, quand Donald Trump avait dit que le rapport Mueller l'avait totalement exonéré, non.
Et il y a plusieurs de ses associés de campagne qui sont ramassés en prison.
Exact.
Faut pas oublier ça, là.
Faut pas oublier. Faut quand même mentionner que dans tous les cas, ce sont des crimes qui n'étaient pas liés directement à de la collusion avec la Russie. Sauf qu'en même temps, on a fait ensemble à plus d'une reprise l'éventail de ses associés qui sont derrière les barreaux, qui vont l'être. C'est assez accablant, en soi.
L'autre affaire qu'il ne faut pas oublier, c'est que la communauté du renseignement américain, là, les agences qui sont chargées de faire du renseignement, ben, sont à peu près unanimes. La Russie a essayé d'influencer les élections américaines en 2016.
Et ça, il n'y a à peu près plus personne qui dispute ça aux États-Unis, sauf le président.
Sauf le président et la gang de sa secte.
Et voilà.
Merci beaucoup, Raphaël Jacob.
À demain.
On se retrouve demain à venir dans les prochaines minutes, les Québécois. Est-ce que ce sont des bougons? Ben, Luc Ferrandez se pose des questions depuis qu'il a lu la presse et le dossier sur les faillites ce matin. Et on va parler à une Québécoise qui habite en Nouvelle-Zélande à propos de cette éruption volcanique.